Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panet du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast, disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com.
The code sets up high standards of performance for motion picture producers. You want entertainment, wholesome, interesting, and vital.
Au sommaire aujourd'hui, une émission entièrement consacrée à un coffret édité par Elephant Film, alors, qui parle du cinéma pré-code, hein, donc, c'est-à-dire qui précède le code EYES. Ce coffret s'appelle très exactement Hollywood interdit, les années pré-code. Il contient 10 films qui couvrent la période pré-code, hein, et on est sur des films sortis entre 31 et 34. Ces films sont Honor Among Lovers de Dorothy Arzner, L'homme que j'ai tué d'Ernst Lubitsch, Merrily We Go to Hell de Dorothy Arzner, Hot Saturday de William A. Sater, Le baiser devant le miroir de James Whale, Le cantique des cantiques de Ruben Mamoulian, La chanteuse de cabaret d'Alexander Hall et George Somnes, L'école de la beauté d'Earl C. Kenton et Demain de Frank Borzaghi, Cléopâtre de Cécile B. 2000. Pour causer de ces 10 films, on a directement contacté Denis Rossano. Denis Rossano, qui est l'auteur du livret qui accompagne, alors un livret, que dis-je, un livret, il fait presque 100 pages, donc plutôt du petit livre, qui accompagne ce coffret, un livre incroyablement complet, justement, sur le cinéma pré-code, sur quelques-unes de ses figures et sur les films qui sont proposés dans le coffret. D'ailleurs, on remercie Victor Lopez pour son aide sur cette émission. Et puis, on se connecte tout de suite avec Denis Rossano. Donc, Denis Rossano au micro de Culture Prohibée.
Tout le monde parle du cinéma pré-code. Enfin, tout le monde. Les cinéphiles parlent beaucoup du cinéma pré-code sans vraiment savoir exactement ce que c'est. Le terme pré-code lui-même, en fait, ne date que des années 80, en fait. Ça a été lancé à la mode et ça a explosé dans les années 90, notamment avec la chaîne américaine TCM, qui avait tout le catalogue de la Warner et de la RKO. Donc, ce sont tous les films, en fait, qui ont été diffusés, qui ont été distribués par les studios américains entre le 19 février 1930 et le 1er juillet 1934. Donc, il ne s'agit pas d'un genre. Le cinéma pré-code, ce sont tous les genres, tous les films qui appartiennent à tous les genres différents de cette période-là. Donc, en 1930, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un monsieur qui s'appelle Will Hayes, qui promeut un code de censure. Alors, je vais essayer d'expliquer aussi clairement que possible ce qui s'est passé. C'est qu'en fait, à l'époque, dès le tout début du cinéma muet, la Cour suprême américaine a décidé que le cinéma n'avait pas le droit d'expression qui est dans la Constitution. Donc, on voit tous les États, et même les villes à l'intérieur des États, décider de ce que le public peut voir ou ne pas voir sur les écrans. Et donc, tous les films sont charcutés. Et les studios qui commencent à peine à vivre, c'est-à-dire qu'on est en 1922, à l'époque où Will Hayes arrive dans le milieu du cinéma, la MGM n'existe pas vraiment encore, la 20th Century Fox n'existe pas encore. Donc, les studios qui commencent à naître décident de mettre quelqu'un, de donner un rôle à une personne spécifique pour s'autoréguler, pour défendre en fait les droits des studios. Donc Will Hayes, qui vient de la politique, se retrouve à ce poste-là. Il dirige ce qu'ils appellent la MPPDA, qui est la Motion Pictures Producers and Distributors Association, donc l'association qui représente les distributeurs et les producteurs. Et en fait, sa son idée, et qui n'est pas en fait une idée idiote du tout, c'est qu'il veut empêcher la censure d'être étatique. Il ne veut pas que ce soit l'État fédéral qui dise à Hollywood ce qui doit être fait ou pas fait dans le cinéma. Et alors que par contre, on verra plus tard que la censure étatique, c'est ce qui va arriver en Union soviétique, sous le nazisme, des choses comme ça. Donc quelque part, il y a une très bonne... L'idée en elle-même est bonne. Alors on se retrouve dans les années 20 à Hollywood, où Hollywood en fait est l'incarnation pour toute la nation, et pour le monde d'ailleurs, d'un espèce d'hédonisme fracassant. Il y a des scandales énormes de mœurs à Hollywood, il y a des films qui vont assez loin dans ce qu'ils démontrent, et arrive la dépression économique, et il y a une espèce de retour de manivelle en fait. Et donc Will Hayes, qui est très religieux, qui croit beaucoup en la supériorité de l'Amérique, qui se méfie des influences étrangères, toutes ces choses-là qui existent encore aujourd'hui, hein, qu'on voit vraiment encore dans l'Amérique d'aujourd'hui. Donc William Hayes décide qu'il faut que Hollywood s'auto-censure pour éviter que l'État, en fait, impose sa censure. Ça commence en 1927, où il fait une espèce de liste des choses qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire. Et en 1930, en fait, il y a ce code qui est écrit et qui est signé par les studios et qui est mis en place le 19 février 1930. Alors, ce code, en fait, c'est très simple. Il y a d'abord des principes généraux qui sont assez vagues, en fait, qui veulent établir la supériorité d'une certaine morale qui doit être respectée à l'écran. Et surtout, il y a après les applications pratiques. Alors, les applications pratiques, ce sont exactement ce qu'on peut montrer à l'écran et ce qu'on ne peut pas montrer, ce qui est interdit. Il y en a 12. Il y a, par exemple, tout ce qui est criminel, tout ce qui est contre la loi. Alors, ça va du vol, les meurtres, des choses comme ça. Il y a le sexe, évidemment. Alors, le sexe est le paragraphe le plus long parce que, évidemment, le sexe aux États-Unis, ça a toujours été un problème. Donc, l'adultère, par exemple, il faut le montrer que d'une manière... impossible de justifier l'adultère, par exemple. Il faut toujours que ce soit condamné. La passion, les scènes de passion sont interdites. Les scènes de séduction ou de viol sont interdites. Ce qu'ils appellent la perversion sexuelle, c'est interdit. Alors, par cela, ils veulent dire l'homosexualité. L'esclavage des Blancs est interdit. Alors, ce qui est intéressant, on ne parle pas de l'esclavage tout court, c'est l'esclavage des Blancs seulement qui est interdit. Ce qu'ils appellent le métissage, c'est-à-dire les relations entre différentes races, et donc en fait entre les Blancs et les Noirs, c'est interdit. Et ils mettent dans le sexe aussi bizarrement les scènes de naissance. Ça, c'est interdit. Après, il y a tout ce qui est vulgaire, il y a tout ce qui est obscène, les insultes. Dans les costumes, ils mettent les costumes, par exemple, interdit de montrer des costumes qui soient trop révélateurs, où la nudité est interdite. Les danses, la danse ne doit jamais être suggestive. La religion, alors là, la religion, il faut absolument la respecter. Impossible de se moquer d'un pasteur ou d'un prêtre. La location, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de montrer des scènes trop intimes dans des chambres à coucher. La chambre à coucher est tabou. Le sentiment national, il faut respecter le drapeau américain. Et ça se termine par le 12e paragraphe, qui sont tous les sujets qu'ils appellent repellent, c'est-à-dire les sujets abjects. Alors, par exemple, la brutalité, la cruauté contre les enfants ou les animaux. Et bizarrement, ils mettent là-dedans aussi les pendaisons. Les pendaisons et l'électrocution sont interdits à l'écran. Voilà. Donc, il y a ce code qui est mis en place, que les studios signent, hein. Tous les studios signent ce code-là, et en fait, ce qui se passe, c'est que personne ne va le respecter. Tout simplement parce que ces films-là, en fait, que ce soit des grosses productions ou des films bon marché, font venir les foules. On est en pleine crise économique, et le cinéma est la seule chose que les gens... pour lesquels les gens payent, en fait. Ils veulent s'échapper, ils veulent échapper à la misère du quotidien, et le cinéma offre ça. Et donc, le cinéma... Les films qui montrent toutes ces choses-là, en fait, ben, ça excite les gens, ça leur plaît. Donc, ça rapporte de l'argent. Et les studios, en fait, ne pensent toujours qu'à l'argent. Et donc, ils vont refuser d'appliquer le... Alors, ils ne vont pas refuser littéralement. Il y a un comité qui est mis en place et qui fait la liaison entre les studios et donc le code. Mais en fait, les négociations sont généralement se terminent dans des discussions qui n'en finissent pas, et les films sortent tels que les studios les veulent, et donc ça dure 4 ans, en fait. Pendant 4 ans, de 1930 à 1934, une centaine, des centaines de films sont lancés sur le marché qui évoquent tous ces sujets qui sont a priori interdits que je viens d'évoquer. L'Amérique est un pays très, très religieux. À l'époque, elle l'est toujours, mais à l'époque, elle est très, très religieuse. Donc, le public urbain se précipite dans ces films, pour voir ces films-là dans les salles. Le public, par contre, qui est dans au Midwest, par exemple, ou dans le Vieux Sud, est plus facilement choqué. Beaucoup écrivent des lettres aux studios, les studios ne font pas attention, mais ce qui se passe, c'est qu'il y a un groupe religieux qui représente les catholiques, qui s'appelle la Légion de la Décence Nationale. Alors déjà, le nom lui-même veut tout dire. Et eux sont très puissants, parce qu'en fait, les catholiques, c'est un seul groupe, alors que tous les autres religieux du pays, qui sont essentiellement des protestants, sont disséminés en plusieurs groupes. Donc, il n'y a pas la force de représentation que les catholiques ont à l'époque. Donc, cette légion catholique, en fait, menace tout simplement de boycotter les films hollywoodiens. Et ils font un premier boycott à Philadelphie, qui était une ville très importante. Le marché de Philadelphie est très important pour Hollywood. Et effectivement, le boycott marche. Il y a une baisse du box-office de 40%. Et ça, les studios, pour eux, c'est inacceptable. Les studios n'ont pas de moralité, en fait. S'ils font des films amoraux, c'est juste parce que le public les veut. Si d'un seul coup, le public ne va pas dans les salles pour voir ces films-là, ils vont changer les studios, ils vont suivre le code. Donc, on se retrouve en 1934, et là, les studios, finalement, acceptent le 1er juillet de suivre le code à la lettre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Will Hayes, depuis le départ, il ne voulait pas qu'il y ait de censure. Il voulait que les studios s'autorégulent eux-mêmes, il ne voulait pas forcer la censure. Mais il a appelé pour l'aider à diriger le code un monsieur qui s'appelle Joseph Breen, Joe Breen, et ce type-là est terrible. Il est ultra, ultra catholique, il est d'un antisémitisme féroce, et lui veut appliquer le code à la lettre. Et en fait, dès 1934, il écarte Will Hayes du pouvoir, c'est lui maintenant qui dirige vraiment le code. Et en fait, jusqu'en 1956, le code va être appliqué avec une férocité vraiment, personne ne va y échapper. Il y a une érosion qui arrive dans les années 50. 56, c'est vraiment le tournant. Et en fait, le code va être lui-même effacé. Enfin, il va être arrêté d'appliquer littéralement en 1968. Mais donc, vraiment, le cinéma pré-code, c'est 1930-1934. 4 ans, c'est pas beaucoup, 4 ans. Hein. Mais en 4 ans, on a des centaines de films comme on n'en verra plus jamais après. Des films qui d'ailleurs vont être interdits par la suite, certains on ne les reverra plus que dans les années 70, beaucoup vont être charcutés, par exemple quand il y a des ressorties, on enlève toutes les scènes qui sont jugées moralement dangereuses, et donc ce cinéma pré-code est une espèce d'Atlantide en fait, qui a longtemps été ignorée, et qui réémerge en fait dans les années 80 et dans les années 90, et aujourd'hui, grâce aux restaurations et aux Blu-ray, on peut enfin les voir dans leur état original en fait.
Vous écoutez Culture Prohibée.
Vous le rappelez dans votre livret, Denis Rossano, donc, qui accompagne ce coffret sur les films, ce qu'on appelle le cinéma pré-code, vous l'avez dit à l'instant, parce qu'on parle toujours de Will Hayes, par rapport au code Hayes, mais c'est surtout Joseph Breen en fait, qui va être terrible. Antisémite notoire, vous l'avez dit, et antisémite notoire, c'est écrit dans votre livret, mais qui va quelque part... qui va se payer en fait cette industrie qui est dirigée par des juifs quelque part. Donc lui c'est ça, pour lui ça va être vraiment quelque chose de terrible du coup.
Absolument. Alors il faut pas oublier que pratiquement tous les studios sont pratiquement tous dirigés par des juifs qui ont émigré, qui sont des émigrés de Russie, de Pologne, tout ça. Ils sont à la tête des studios. Joseph Breen est les juifs, il le dit littéralement, il y a une lettre où il dit que ce sont les ordures de la terre. Et il ne va jamais changer de point de vue. Et même après, vers la fin des années 30, alors que le nazisme explose en Allemagne, il va lui-même s'acoquiner avec un des représentants nazis à Hollywood. Donc ça va quand même assez loin. Ce qui se passe, c'est que les studios, les dirigeants des studios, qui sont donc des juifs, et qui sont souvent très fiers d'être juifs, de leur culture, mais ils veulent créer un cinéma américain. Ils veulent l'assimilation américaine. Et donc, en fait, ils ne vont pas vraiment défendre leurs valeurs personnelles, ils vont défendre un cinéma qui incarne l'Amérique. Et en cela, en fait, ils vont s'allier avec Joseph Breen, même si Joseph Breen les déteste personnellement. Il y a une anecdote, par exemple, assez étonnante où Irving Thalberg était le grand génie producteur à la MGM, où il travaillait pour Louis B. Mayer. Et un des grands films pré-code de la MGM, c'est un film sur Rasputin et sur le meurtre de Rasputin à l'époque donc avant la Révolution russe, et ce qui a mené à la Révolution russe. Et en fait, Irving Thalberg, quelqu'un lui dit un jour, mais pourquoi faire un film qui défend la famille impériale? Alors que la famille impériale russe était notoirement antisémite et que tout le peuple juif a souffert des exactions de cette famille impériale. Donc vous, Monsieur Thalberg, et Thalberg lui répond, mais moi, ce que je vois, c'est que la famille royale anglaise était liée par le sang à la famille impériale russe. Le cinéma que je produis, est très important en Angleterre. Je ne peux pas me mettre l'Angleterre à dos parce que le marché est trop important. Donc, je vais aller dans le sens de quelque part d'être du côté de la famille impériale russe. Donc, c'est une anecdote, je trouve, qui en dit long dans le sens où ces producteurs juifs, en fait, ces distributeurs juifs, tous ces gens qui dirigent des studios, qui sont des empires, les studios sont vraiment des empires à l'époque, vont aller s'allier avec leur pire ennemi, qui est Joseph Breen, parce qu'ils veulent que leur cinéma soit purement américain, en fait. Et c'est là, en fait, où naît le mythe du cinéma hollywoodien, qui, quelque part, en fait, moi qui ai écrit sur le cinéma allemand, et notamment sur le cinéma de l'époque nazie, le cinéma hollywoodien est quelque part de la propagande. C'est du cinéma de propagande, mais c'est de la propagande pour le mythe américain, en fait. Et en cela, en fait, l'identité juive n'est pas vraiment acceptable, ou en tout cas ne peut pas être montrée au premier plan dans le cinéma américain.
Il y a une anecdote célèbre, je ne sais plus si c'est Khrouchtchev, mais c'est un des dirigeants qui a suivi la déstalinisation, qui dit à un dirigeant américain, qui lui dit mais pourquoi vous avez besoin d'essayer de vous pratiquer une politique impérialiste, puisque de toute façon, avec votre, tout le monde a envie de vivre comme dans vos films, personne n'a envie de vivre comme dans les films soviétiques.
Et c'est tout à fait vrai, et c'est vrai qu'avec le recul du temps, on se rend compte aujourd'hui que la réalité de l'Amérique n'est pas montrée dans le cinéma américain. Le cinéma hollywoodien, de l'âge d'or hollywoodien, c'est de la propagande pour le mythe américain, pour le rêve américain, ce fameux rêve américain qui n'existe pas, en fait, le rêve américain. Donc, toutes les réalités, les problèmes de la religion aux États-Unis, toutes ces choses-là, on ne les voit pas dans le cinéma américain de l'époque. Donc, ça, c'est fascinant, je trouve. Et en même temps, c'est vrai que c'est tellement bien fait parce que c'est là où les studios hollywoodiens sont très forts, c'est qu'ils rendent ce rêve irrésistible. Et justement, alors, on a ce cinéma pré-code, donc 1930-1934, qui, lui, ne vend pas le rêve américain. Lui, il montre la réalité de l'Amérique de l'époque, la réalité de la sociale, la réalité sexuelle, les relations entre les gens. Donc, c'est un cinéma, finalement, même s'il est sentimental, même si c'est mélodramatique et tout ça, c'est un cinéma très réaliste. Et ça rend ces films vus aujourd'hui très très étonnants parce qu'il y a un côté presque, j'allais dire, documentaire en fait. Ce sont des pépites qui nous dévoilent ce qui était vraiment l'Amérique de l'époque. Et après 1934, ça n'existera plus. On ne verra plus des films comme ça.
Et dans votre livret, vous revenez longuement aussi sur une actrice que vous voyez comme emblématique aussi de cette époque, c'est Nancy Carroll. C'est une des premières stars du parlant. Et pourquoi vous faites ce choix ? Après, on parlera des films dans lesquels elle joue qui sont dans le coffret, parce qu'il y a L'homme que j'ai tué, Le baiser devant le miroir, et normalement, il y en a un troisième, je crois, si je ne dis pas le Hot Saturday. Pourquoi ce choix de Nancy Carroll ? Parce qu'il y a d'autres actrices à l'époque qui étaient emblématiques. Absolument. De cette période.
Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le code est appliqué au moment où il commence. Enfin, il est mis en place. Donc, 1930, c'est vraiment le tout début du parlant. Et cette période-là, il y a une arrivée extraordinaire de nouveaux acteurs et de nouvelles actrices à Hollywood, et notamment les actrices. Alors, il y a toutes celles qu'on connaît, qui sont devenues légendaires. Il y a Barbara Stanwyck, il y a Greta Garbo. Bon, Greta Garbo a commencé un peu avant, mais elle explose vraiment à cette période-là. Il y a Joan Crawford, Norma Shearer, Jean Harlow. Donc, toutes les grandes légendes hollywoodiennes sont lancées à cette époque-là, beaucoup. Marlène Dietrich, évidemment, qui arrive d'Allemagne. Mais il y a aussi un nombre hallucinant d'actrices totalement oubliées. Des actrices qui vont devenir des stars, de vraies stars, mais qui vont briller 2 ans, 3 ans, 4 ans maximum, et puis elles disparaissent. Et en fait, c'est assez étonnant, c'est que le star system mis en place par les studios, à la fois, il met en avant avec des millions de dollars, c'est-à-dire que les studios dépensent beaucoup d'argent pour promouvoir ces stars, mais en même temps, il y a toujours une star derrière pour la remplacer, en fait. Donc, c'est une espèce de machine infernale qui ne cesse de tourner, et ces actrices sont à la fois lancées et détruites par le studio, par le système. Et ce système est lié vraiment au code, au cinéma pré-code, parce que c'est un cinéma qui est très riche, où il y a énormément de films qui sont faits, et donc on a besoin de beaucoup d'actrices. J'aurais pu choisir d'autres, en fait. Il se trouve, en fait, que Nancy Carroll a été celle qui, peut-être, probablement, aurait pu devenir légendaire. Et pour plusieurs raisons, en fait, elle ne le deviendra pas, et elle sera même complètement oubliée avant d'être peu à peu redécouverte. Et Nancy Carroll, qui a commencé en 1928, elle devient une superstar, mais pratiquement immédiatement. Elle est, dans les sondages, elle est la star numéro 1 des Américains. Elle fait des comédies musicales au tout début du parlant. Elle fait des drames où elle est vraiment... Moi, j'ai vu ces films-là, elle est incroyable quand même. Elle est d'une modernité incroyable. Et dès 1933, c'est fini. Sa carrière décline, périclite de manière prodigieuse. Et à la fin 1934-1935, c'est terminé, elle n'existe plus. Et donc, je trouve qu'il y a quelque chose de fascinant dans ces espèces de carrières météoriques qui mènent des gens au sommet avant de les détruire totalement. Et Nancy Carroll, ce qui est assez poignant, en fait, d'abord, c'est que c'était une actrice exceptionnelle, d'une versatilité. Elle est incroyablement versatile, elle peut tout faire. Très jolie, qui a un charme fou à l'écran, très moderne, et qui, en fait... Il y a plusieurs choses qui vont apparaître et que je trouve sont assez emblématiques de ce qui se passe à l'époque. Il y a le fait que, par exemple, elle fait un film qui ne marche pas. Et à partir de là, tout s'enchaîne. Comme si qu'un seul bide pouvait déterminer de toute une carrière, ce qui est vraiment hallucinant. Mais surtout, en fait, c'est une femme libre. Elle refuse de jouer le jeu que veut lui imposer le studio. Elle est avec la Paramount pendant plusieurs années. Elle est jugée difficile sur les plateaux parce que c'est une femme qui a du tempérament, c'est une femme qui est exigeante et c'est une femme qui ne veut pas se laisser manipuler par réalisateur. Elle le dit d'ailleurs, je cite un moment des mots qu'elle a écrit où elle dit qu'en tant qu'actrice, elle est exigeante, elle sait, elle pense savoir ce qui est le mieux pour le rôle qu'elle veut jouer et elle veut donc pouvoir le dire au lieu d'être écrasée par des réalisateurs qui sont le plus souvent des hommes. Donc, il y a beaucoup de sexisme, en fait, à cette époque-là. Ces actrices sont peu respectées par un système qui est dirigé par des hommes, où les films sont essentiellement réalisés par des hommes. Et donc, Nancy Carroll va être victime de cela. En plus, à l'époque, elle est mère d'une petite fille et elle est prise dans un étau. C'est-à-dire qu'au départ, le studio ne veut pas qu'on mette en avant son enfant, parce qu'elle incarne une certaine innocence. C'est une jeune femme très, très jolie qui a un visage très pur. Et donc, elle doit incarner la pureté. Donc, quand on est pur, on n'a pas d'enfant. Ça, c'est vraiment les mentalités de l'époque. Et donc, mais elle, au contraire, elle a son enfant et elle ne veut pas cacher son enfant. Mais en même temps, elle ne veut pas utiliser son enfant dans la machine publicitaire. C'est intéressant parce qu'à l'époque, on a la Paramount également, la grande reine de la Paramount, c'est Marlène Dietrich. Marlène Dietrich va utiliser sa fille Maria dans la machine publicitaire. On voit beaucoup de photos de Marlène Dietrich avec son enfant et elle va même faire jouer sa fille dans le film qui s'appelle L'Impératrice Rouge, qui est un des grands films pré-code justement. Sa fille joue. Nancy Carroll refuse cela. Donc le studio ne sait pas quoi faire et la presse, qui est très importante à l'époque, il y a beaucoup de magazines de fans. Ce sont des magazines de cinéma en fait, qui ne sont pas très... C'est pas l'équivalent, on n'a pas l'équivalent des Cahiers du cinéma ou de Positif. Hein. Ce sont vraiment des magazines pour les fans. Et donc, cette presse-là devient très hostile à Nancy Carroll parce qu'elle ne joue pas le jeu, en fait. Et donc, en fait, elle est littéralement descendue en flammes par plusieurs articles, j'en cite quelques-uns. Le studio, finalement, décide que, bon, elle a eu un bide, elle est difficile à manier. Donc, et elle est facilement remplaçable, c'est ça le truc. C'est qu'il y a tellement d'actrices, et donc en fait, elle est éjectée. Et elle va se retrouver, à la fin des années 30, on la retrouve dans des tout petits rôles, alors que 5 ans, 6 ans avant, elle était numéro 1 avec son nom en haut de l'affiche. Et je trouve ça assez poignant, en fait. Et ce qui est bien, enfin bien, je veux dire, ce qui est rassurant, c'est de savoir qu'après, en fait, elle n'a pas vécu une vie comme le personnage de Gloria Swanson dans Sunset Boulevard. Elle a continué à avoir une vie très riche, elle a joué beaucoup au théâtre, donc ce n'est pas une déchéance absolue, mais il y a quelque chose de très touchant dans cette femme qui a atteint la gloire, qui l'a totalement perdue et qui a été totalement oubliée, et qu'aujourd'hui on redécouvre à travers des films qui sont quand même assez magnifiques. Les trois films du coffret où elle apparaît sont des films étonnants et qui méritent vraiment d'être vus aujourd'hui, je trouve.
I killed a man.
Vous écoutez Denis Rossano, auteur du livret qui accompagne le coffret Hollywood interdit des années pré-code, édité par Éléphant de Film, au micro de Culture Prune. Il y a un film qui est un film signé d'une légende du cinéma, Ernst Lubitsch, qui s'appelle « L'homme que j'ai tué ». Et là, c'est pareil, vous pouvez présenter le film, hein, mais c'est vraiment un film, comment dire, qui est en plus sur des sujets forts, quoi. Le film se passe en 19, il y a un militaire français qui est torturé par le remords d'avoir tué un jeune soldat allemand pendant la Grande Guerre. Il va partir à la recherche de la famille de ce dernier, puis il va prendre peu à peu la place de celui qui a disparu, en se faisant passer pour un ami du défunt. C'est un film sur un scénario très fort, et elle est très impressionnante dans ce film.
Oui, alors c'est un film, je pense que pas mal des auditeurs connaissent peut-être l'histoire, parce que ça a été fait, il y a François Ozon qui en a fait un remake avec le film France
ouais.
Qui est un film magnifique d'ailleurs. Mais le film original, donc le film de Lubitsch, c'est typique du cinéma précoce, c'est-à-dire que ça prend un sujet très difficile. Il ne faut pas oublier, la Première Guerre mondiale, il y a à peine 15-16 ans avant, donc c'est quand même très très proche dans la mémoire. C'est un sujet difficile, et en plus, c'est un film qui se place du point de vue, c'est pas du point de vue américain. Alors déjà, il y a eu, une des raisons pour lesquelles le film a été fait, c'est parce qu'il y a eu « À l'Ouest, rien de nouveau », qui a été tourné par la Universal, et « À l'Ouest, rien de nouveau » est un des grands films pré-code également, où là, on est carrément du point de vue du soldat allemand. C'est comme si aujourd'hui, imaginez qu'aujourd'hui, Hollywood fasse un film du point de vue russe, en parlant de la guerre de l'Ukraine, c'est quand même assez étonnant. Et à l'Ouest, rien de nouveau provoque un gros scandale, mais c'est un succès phénoménal. Donc la Paramount décide de faire un film similaire, et c'est L'homme que j'ai tué, qui est adapté d'une pièce française, hein, d'ailleurs, et de Maurice Rostand. Et donc Lubitsch, c'est le roi de la Paramount. Il y est depuis le début des années 20. Il est très influent au sein de la Paramount, il est producteur, il est réalisateur, il a un esthétisme, une vision esthétique du cinéma qui est très particulière. Il est connu pour des comédies musicales très légères, donc elles aussi très pré-code, qui mettent en avant beaucoup qui mélangent sexe et humour. Et L'homme que j'ai tué est un peu un tournant pour lui, parce que c'est son premier film dramatique. Et c'est effectivement... Alors il y a des moments, parce que la situation dans laquelle le personnage se retrouve est tellement inextricable qu'il y a des moments où on frôle la comédie, mais c'est quand même, on est vraiment à la frontière de la comédie et du mélodrame, mais du mélodrame qui est vraiment poignant. C'est pas le gros sentimentalisme, c'est vraiment des émotions très très subtiles. Effectivement, Nancy Carroll est étonnante, dans un rôle pas facile, parce qu'elle joue le rôle de la fiancée de ce soldat allemand qui est mort et qui rencontre ce soldat allemand français qui se fait passer pour l'ami de son fiancé mort. Et il y a une relation entre eux qui s'établit. L'acteur qui joue le soldat est un mérite d'être... qu'on en parle, il s'appelle Phillips Holmes. Phillips Holmes était très connu dans cette période-là. La plus grande partie de sa carrière, c'est le cinéma pré-code. Et il était considéré comme un des plus bels hommes d'Hollywood. Effectivement, il a une beauté angélique, je trouve. Il a une espèce de regard mélancolique, translucide. Et il est très représentatif de toute. Il y a beaucoup d'acteurs comme lui qui sont énormément liés au cinéma pré-code, qui ne deviendront pas des superstars, mais qui jouent beaucoup, et qu'une fois que le code va vraiment être établi à partir de 1934, en fait, ils vont eux aussi disparaître. En fait. Donc, Nancy Carroll ou Phillips Holmes ou des films comme L'homme que j'ai tué sont vraiment emblématiques de cette période et vont disparaître, en fait. L'homme que j'ai tué va disparaître de la circulation. Alors, le truc, c'est que le film marche relativement bien, mais pas suffisamment pour que ce soit un très, très gros succès. Et d'ailleurs, c'est Ernest Lubitsch va être tellement déçu après, devant l'accueil mitigé du public, qu'il ne fera plus jamais un seul film dramatique. Tous les films de Lubitsch après seront des comédies. Mais le film est très important, je trouve, dans sa carrière, dans celle de Nancy Carroll, mais aussi dans le cinéma de la Paramount. Et ce que je voudrais rajouter, c'est qu'en fait, le coffret d'Elephant Film met en lumière essentiellement des films. Il y a 8 films de la Paramount et 2 de la Universal. Et ce qu'il faut rappeler, c'est qu'en fait, à l'époque, chaque studio avait son image et avait je dirais pas un genre, mais jouait sur certains tableaux. Alors, la MGM, par exemple, ce qui était le studio le plus riche d'Hollywood, c'était le glamour ostentatoire. C'était les films très luxueux de John Crawford, de Greta Garbo, de Norma Shearer. C'est vraiment le glamour absolu. La Warner Brothers, par exemple, c'était plus un cinéma très social, assez dur. C'est eux qui développent le cinéma de gangster, qui est donc lui aussi un cinéma très précode. Les gangsters, c'est vraiment lié au cinéma précode. La Universal, ça va être les grands films d'horreur, Frankenstein, Dracula, ces choses-là, qui sont aussi, ça aussi, c'est du cinéma précode parce que c'est très tabou à l'époque. Donc, ça, c'est la Universal. Et on a la Paramount, et la Paramount est connue pour son côté très européen. Il y a un esthétisme, il y a une sensibilité européenne à la Paramount qui est beaucoup liée justement à l'influence d'Ernst Lubitsch et qui est aussi liée à l'esthétisme visuel. On parle beaucoup de la luminosité des films de la Paramount. La photographie des films de la Paramount de l'époque est sublime. Il y a un écrivain qui parle, un auteur qui parle de soft focus. C'est-à-dire que c'est toujours, il y a une espèce de voile qui passe par-dessus, cette espèce de lumière. C'est étonnant. Et en plus, c'est l'un des atouts de ce coffret, c'est que tous les films sont restaurés en haute définition et il faut voir ces films restaurés parce que là, on retrouve la qualité intrinsèque de ces films qui a été perdue au cours des décennies et on retrouve donc ces films de la Paramount, la lumière de ces films, elle est extraordinaire dans ces versions restaurées. Et en plus, les versions restaurées permettent de voir des détails qui étaient très importants à l'époque, par exemple les costumes que portent les actrices, qui peuvent être très révélateurs, très séduisants, très sexy. On avait perdu un peu tout ça avec les mauvaises copies qui passaient à droite et à gauche. Et donc, rien que pour ça, le coffret vaut un peson d'or, je trouve.
Il y a le baiser devant le miroir, on en a déjà longuement parlé. Alors, c'est pareil avec James Whale, on pourrait faire une émission complète sur lui.
Oui, mais James Whale, c'est un réalisateur extraordinaire.
On est d'accord, un véritable génie, un type incroyable, un dandy homosexuel qui s'en cachait pas. On peut faire un parallèle avec Dorothy Arzner, dont on va parler après, qui a œuvré principalement pour la Universal. On connaît ces deux Frankenstein, mais ce n'est pas que ça, James Whale. C'est aussi, donc là, le baiser devant le miroir avec Nancy Carroll. Mais celui-là, on en avait déjà pas mal parlé dans notre émission parce qu'il est ressorti il n'y a pas longtemps. Mais il y a un autre
Oui,
film aussi.
effectivement.
Et ouais, il y a un autre film aussi qui est dingue dans ce coffret, que je ne connaissais pas, parce que moi j'avoue, je ne connaissais pas ce réalisateur, pourtant je suis assez cinéphile, mais là j'avoue, c'est William A. Sater, c'est un film de 32 qui s'appelle Hot Saturday, et là c'est vraiment un film d'une grande modernité, puisqu'on y découvre le parcours d'une femme qui fait rien de mal, mais dont la moralité semble entachée, en tout cas, elle vit quelque chose de terrible par rapport à sa réputation, tout simplement parce qu'elle s'est rendue à une fête, elle n'a rien fait de terrible, mais en tout cas, la société va porter un jugement sur elle, quoi. C'est assez passionnant, ce film.
C'est un film que moi, j'adore. Alors, William Sater, c'est un de ces réalisateurs, comme il y en a eu beaucoup, qu'on appelle des artisans, en fait. Des réalisateurs qui ont tourné énormément, avec toutes les stars possibles et inimaginables, et dans tous les genres. Et je suis, en fait, vous ne connaissez pas son nom, mais vous avez vu des films de lui, c'est évident, en fait. Et Hot Saturday, donc ça c'est encore une fois typique du cinéma précode. C'est effectivement, ça se passe dans une petite ville de province et c'est le destin de cette jeune femme qui effectivement ne fait rien de mal, sauf qu'en fait, et là en fait quelque part on peut faire le lien avec la personnalité même de Nancy Carroll, c'est une femme qui est libre et qui refuse de laisser la moralité ambiante de cette petite ville diriger sa vie. Et c'est là où, en fait, on voit la différence avec ce que Hollywood fera après 1934. C'est-à-dire que dans ce film, elle est libre, elle voit les hommes qu'elle veut et elle choisit l'homme qu'elle veut. La fin est étonnante, elle ne se laisse pas imposer. qui elle doit voir et avec qui elle doit terminer. Après 1934, ça, c'est impossible. Après 1934, il faut que la moralité soit sauve, et donc on ne pourra plus voir un film comme ça. Et en même temps, c'est un film très frais, très moderne, en fait, je trouve, dans sa conception, et où elle est, elle, d'une fraîcheur. Je la trouve absolument irrésistible dans ce film. Et elle est en plus entourée par deux hommes qui sont, c'est pas n'importe qui, c'est Cary Grant à ses tout débuts et Randolph Scott, qui sont donc rivaux en amour pour Nancy Carroll. Et ce qui rend pour le spectateur d'aujourd'hui les choses encore plus intéressantes et ironiques, c'est qu'en fait, à l'époque, toutes les rumeurs semblent confirmer que Randolph Scott et Cary Grant étaient un couple à la vie, dans leur vie intime. Ils avaient une relation. Alors, Randolph Scott était homosexuel, ça on le sait. Cary Grant, on pense maintenant, c'est assez clair qu'il était bisexuel. Et donc, à l'époque, il était en couple avec Randolph Scott. Et le voilà qui joue avec son amant et il joue des rivaux autour d'une femme. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez ironique dans ce trio-là. Mais je trouve que c'est un film dont, qui, en fait, se moque de la moralité et se moque de la mentalité des petites villes de province. Et ça, c'est un thème très hollywoodien qu'on va retrouver dans plusieurs films au cours des décennies suivantes. Et le monde des petites villes américaines, monde très oppressant, où évidemment il y a la religion, on peut pas trahir son couple, sa famille, des choses comme ça. Ça revient beaucoup en fait dans les films jusqu'à la fin des années 50.
Vous écoutez Denis Rossano au micro de Culture Prohibée. Film très étonnant de Frank Borzaghi, d'après un texte de Falada, joué par Margaret Sullavan. D'ailleurs, vous faites, là c'est pareil, un focus sur ces trois personnalités, mais un film qui s'appelle « Et demain » et qui raconte en fait, c'est un film sur comment on affronte la crise des années 30. Quoi. C'est un film là aussi très, très étonnant. Et Borzaghi, en fait, c'est un réalisateur, les cinéphiles ont pas oublié du tout Douglas Sirk. Par contre, Borzaghi, c'est pourtant lui aussi un maître. Il est par contre oublié. Pourtant, c'est un grand esthète. Enfin, moi, j'aime beaucoup.
Oui, je trouve que c'est un réalisateur étonnant qui a été... Alors, à l'époque, il devient célèbre, Borzaghi, au début des années 20. Et sa carrière s'étend jusqu'au tout début des années 60. Mais vraiment, la grande période de sa gloire, c'est les années 20 et les années 30. Et effectivement, il est tellement célèbre à l'époque que son nom apparaît en haut de l'affiche. Il est aussi célèbre que les stars qu'il dirige. Et il est considéré comme le maître du mélodrame, des histoires d'amour. C'est le chantre de l'amour fou, en fait, Borzaghi. Et tous ses films, pratiquement tous ses films, ne parlent que de ça. C'est un romantique absolu, en fait, un romantique fou. Et un film comme « Et demain », je trouve, est fascinant parce que c'est à la fois une vision très réaliste de la dépression économique. Alors, ça se passe en Allemagne. Donc, c'est l'Allemagne d'avant Hitler. Donc, c'est l'Allemagne de la République de Weimar, au moment, en fait, où elle s'écroule en grande partie à cause de la dépression économique. Et c'est l'histoire de ce couple qui n'est pas riche, qui vient juste de se marier et qui va faire face à des tribulations, à toutes les difficultés, à tous les obstacles que la dépression économique impose à la population. Et donc, en ce sens-là, c'est un film très réaliste, assez dur en fait, pas sentimental. Et parallèlement, il y a l'histoire d'amour qui unit ce couple et qui transcende en fait justement la crise économique, qui transcende le monde dans lequel ils vivent. Et notamment par l'appartement dans lequel ils habitent, va devenir une espèce de... C'est hors du temps, c'est irréel. Alors le fait que le film soit tourné en studio aide à créer ce sentiment d'irréalité. Et en même temps, c'est une irréalité qui est placée dans un monde très réel. Donc il y a cette espèce de contraste qui rend le film assez... unique, assez étonnant. Alors, on est encore dans le cinéma pré-code, là, parce que... Alors, le film est réalisé au tout début 1934, enfin, il sort... c'est-à-dire, au moment où le code va enfin, finalement, être appliqué à la lettre, le film est l'un des tout derniers à sortir qui va qui va montrer une réalité qu'après on ne pourra plus montrer en fait. Alors Margaret Sullavan, qui est une actrice extraordinaire, elle aussi un peu oubliée parce qu'elle n'a pas beaucoup joué, mais je pense que les cinéphiles la connaissent essentiellement par Ernst Lubitsch avec The Shop Around the Corner, où elle forme un couple absolument génial avec James Stewart. Mais elle a fait deux autres films avec Frank Borzaghi qui sont étonnants, qui sont liés à l'Allemagne, eux aussi. Trois camarades, et puis La Tempête Mortelle, The Mortal Storm, qui est un des tout premiers films à parler des camps de concentration. Et donc, elle et Borzaghi ont fait une espèce d'alliance autour de ces trois films qui est remarquable. Et ce film, Et Demain, est vraiment, je pense, un des grands, grands films de Borzaghi, un des très grands films du début des années 30 et un des très grands films de cette période-là. En fait, je pense que c'est vraiment une sorte de chef-d'œuvre qui mérite d'être découvert absolument.
Je suis complètement d'accord. Il y a d'autres films, c'est pareil, là, ceux-là, on en a parlé il n'y a pas longtemps parce qu'ils sont ressortis il n'y a pas longtemps. On en a parlé dans notre émission déjà, de films de Dorothy Arzner qui sont Honor Among Lovers avec la sublime Claudette Colbert et Merrily We Go to Hell avec la non moins sublime Sylvia Sidney et son regard magnétique. Ce sont en plus, alors c'est des films modernes, il y en a un qui est sur la passion destructrice, Sylvia Sidney aime un homme alcoolique. On y parle de lutte des classes, on y parle de plein de choses. L'autre, c'est un drame amoureux moderne autour d'un couple porté par Frédéric Marx et donc Claudette Colbert. Mais ces deux films, on en a déjà parlé. Par contre, ce qu'on n'a peut-être pas beaucoup évoqué dans l'émission et dont vous pouvez nous parler, c'est la personne de Dorothy Arzner, qui est quand même une réalisatrice qui avait ses entrées à Hollywood, qui était une star en fait d'Hollywood et qui est quand même aujourd'hui qu'on redécouvre, mais qui est quand même encore méconnue.
Absolument. Alors, Dorothy Arzner, elle est connue dans les milieux académiques, dans les milieux de gens qui étudient le cinéma. Elle n'est pas encore vraiment, je crois, pas suffisamment en tout cas, connue des cinéphiles. Et c'est pourtant. Alors, je pense que ça vient en partie du fait parce qu'il n'y a pas beaucoup de ces films qu'on ne voit pas, en fait. C'est tout simplement pour ça. Mais c'est une femme absolument remarquable, donc ouvertement lesbienne. Et d'ailleurs, on voit les photos, ça se voit, elle ne le cache pas. Et qui c'est la seule femme réalisatrice dans les années 30, à l'époque des studios, qui vraiment dirige des gros films. Ce n'est pas des séries Z qu'elle dirige, c'est vraiment des gros films. Elle a commencé dès les années 20. En fait, elle a commencé en tant que monteuse dans les années 20, au temps du cinéma muet. Elle s'impose petit à petit. Elle commence à diriger ses premiers films à la fin des années 20. C'est elle quand même qui découvre Frédéric Marx. Frédéric Marx qui va devenir une des plus grandes stars dans les décennies à venir. Elle le découvre et elle le fait jouer dans plusieurs films, dont celui qui est dans les deux en fait, celui avec Sylvia Sidney, celui avec Claudette Colbert, où d'ailleurs elle lui fait jouer des rôles très ambigus. C'est pas Frédéric Marx dans ces films-là, c'est pas le sexe symbole, l'amant romantique idéal, c'est un personnage assez, assez noir, en fait. Et ce qui est étonnant avec Dorothy Arzner, c'est qu'en fait, elle est... Alors, peut-être que cela vient du fait qu'elle est lesbienne et qu'elle ne le cache pas, qu'elle est donc... Elle a un regard très pro-féministe avant même que le féminisme existe, en fait. Et tous ces films, tous ceux qu'elle va faire, sont du point de vue de la femme et d'une femme qui est toujours en... qui fait face à des obstacles, que ce soit la société, le monde du travail, le monde du couple, ou l'homme, tout simplement. Et je trouve, par exemple, Honor Among Lovers, c'est étonnant parce que c'est une analyse du milieu du travail où la femme est victime de harcèlement sexuel, mais c'est d'une modernité. Je trouve le sujet, la manière dont elle le traite, est très, très moderne. De la même manière, le film avec Sylvia Sidney, c'est étonnant parce qu'on voit cette femme qui épouse un homme donc alcoolique, qui je n'arrive pas à trouver un seul autre film de l'époque où ouvertement on parle d'un couple qui accepte, qui décide de mener une vie libre, c'est-à-dire que lui et elle peuvent se permettre d'avoir des amants à côté. Je n'ai jamais vu ça à l'époque, et c'est certainement quelque chose que après 1934 sera totalement, totalement interdit. Et là, c'est très, très clair. Et ce qui est étonnant même dans ce film-là aussi, c'est que Dorothy Arzner ne joue pas la carte de la sentimentalité. C'est un film qui est émouvant, mais qui n'est pas sentimental. Et même la fin est très dure. La fin, c'est pas un happy end, la fin, en dépit de ce que on pourrait, si on veut, y voir un happy end, mais c'en est pas un. Et Dorothy Arzner a une espèce de regard au scalpel, en fait, je trouve. Et elle dirige ses acteurs d'une manière formidable. Je trouve que c'est une excellente directrice d'acteurs et d'actrices. Et ce qui va se passer, en fait, avec Dorothy Asner, c'est que sa grande époque, donc, c'est la fin des années 20, le début des années 30, elle tourne énormément. Et en fait, après 1934, une fois que le code est établi, sa carrière périclite. En fait, je pense que c'est une femme dont l'inspiration, le ton, les idées s'accordaient parfaitement à cette période pré-code et qu'en fait, elle a du mal à s'adapter aux exigences du code. Alors, elle va continuer à tourner, hein, même des films importants, mais de moins en moins. Et elle arrête littéralement sa carrière dans les années 40. Elle ne va jamais vraiment expliquer pourquoi. Elle ne le dira pas. Mais tout ce qu'on peut voir de ce qu'elle a fait sous-entend qu'en fait, elle a été victime du code et qu'en fait, elle a décidé que ça ne valait plus la peine pour elle de faire du cinéma tant que le code était en place. Alors, elle va continuer à travailler. Elle va travailler notamment plus tard, dans les années 50, par exemple. Elle va diriger des pubs pour Coca-Cola, pour Pepsi, parce qu'en fait, elle est très amie avec John Crawford, qu'elle a dirigé à l'époque, dans les années 30. Et John Crawford, dans les années 50, est marié au grand patron de Pepsi. Et donc, Dorothy Asner va faire des pubs qui vont beaucoup marcher pour Pepsi. Mais elle ne fera plus aucun long métrage. Et je trouve que son cinéma mérite absolument d'être découvert. Et sa vie elle-même, elle a mené une vie donc, un peu l'équivalent de James Whale, qui était un homosexuel qui ne se cachait pas. Dorothy Asner ne se cache pas, et elle est pourtant respectée par les studios, et elle est quand même, répétons-le, la seule femme de toute cette période à faire du cinéma. La seule qui va arriver ensuite, c'est Ida Lupino, et Ida Lupino ne commence à faire des films en tant que réalisatrice, je crois que c'est 1949, donc il y a quand même 20 ans sans une seule femme derrière la caméra, c'est quand même incroyable. Et il y a eu Dorothy Asner. Donc rien que pour ça, elle est vraiment un modèle et elle mérite qu'on tire son chapeau.
Vous écoutez Denis Rossano, auteur du livret qui accompagne le coffret Hollywood interdit les années pré-code, édité par Éléphant de Film, au micro de Culture Prune. Il y a aussi une actrice, on s'en parlait tout à l'heure, Claudette Colbert, qui incarne vraiment une certaine image de la sensualité. C'était un véritable sexe symbole à l'époque. Et sa sensualité est sublimée là, dans le Cléopâtre de Cécile B. 2000, mais c'est un film qu'on connaît bien. Par contre, l'autre film qui est dans ce coffret, La chanteuse de cabaret, d'Alexander Hall et George Somnus, là, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on ne pouvait plus montrer après 34, ouais. Parce que l'histoire, elle est quand même gonflée. C'est l'histoire d'une femme qui ne peut plus s'occuper de son enfant illégitime et qui va donc confier son gamin au service d'adoption et qui va devenir chanteuse de cabaret. C'est quand même c'est incroyable, ce film, quand même.
Et surtout qu'il faut bien se mettre à l'époque où être chanteuse de cabaret, c'est quelque chose, c'est presque être une prostituée. On en est presque là. Et d'ailleurs, le personnage qu'elle incarne est hallucinant. C'est-à-dire que Elle défend son amoralité, j'ai envie de dire. Amoralité dans le sens où c'était entendu à l'époque, où elle s'affiche avec des hommes qui ont de l'argent et elle couche avec eux parce qu'ils ont de l'argent. En fait, elle a tellement été blessée par le monde qui l'entoure, la dureté de la vie de l'époque qui l'a obligée à perdre son enfant, que du coup, elle devient très cynique et qu'elle ne jure plus que par l'argent. Le luxe, et cela, elle l'atteint en couchant. Et c'est dit et montré. C'est assez étonnant. Et ça encore, c'est un thème de l'époque pré-code qu'on retrouve dans plusieurs films. Alors, il y a un film légendaire maintenant de l'époque pré-code qui s'appelle Babyface, qui était un film de la Warner avec Barbara Stanwyck. Là, c'est un peu l'équivalent. Chanteuse de cabaret, c'est l'équivalent. Il y a des répliques dans ce film que je trouve inénarrables, qui sont hallucinantes, où les choses sont dites très clairement. Alors, le problème de l'enfant à qui lui est retiré, enfin, qu'elle est plus ou moins obligée d'abandonner, c'est une réalité de l'époque aussi, c'est ça. Ce sont des films qui nous montrent des choses qui arrivaient. Et effectivement, une femme qui met au monde un enfant hors mariage, à l'époque, mais c'est la fin, elle est détruite, une femme comme ça. Donc, elle est obligée, pour pouvoir mener sa vie, d'abandonner son enfant. Alors, le film joue sur des ressorts mélodramatiques, mais qui fonctionne en fait parce que ce n'est jamais sentimental. Et Claudette Colbert, je trouve, est incroyable dans ce film. Je trouve que... Alors, c'est le début de la carrière de Claudette Colbert où à l'époque, elle est vraiment dans le sexe symbole. Elle incarne un sexe symbole. Elle est d'une sensualité incroyable. On la connaît plus, nous, les cinéphiles, pour tous les films qu'elle fera après dans les années 30, 40, 50, où elle est beaucoup dans la comédie. Et c'est effectivement une des meilleures actrices de comédie qu'on ait jamais vues. Mais dans ses films pré-code, elle dévoile une sensualité qui est, je trouve, absolument... elle donne le frisson. Et dans Chanteuse de cabaret, en plus, elle chante, et c'est vraiment elle qui chante. C'est étonnant. Et je trouve... Alors, effectivement, vous avez déjà parlé de Cléopâtre, où elle est quand même, elle est une Cléopâtre incroyable. Ce que je voudrais dire de Cléopâtre, c'est juste que c'est un film. Donc, c'est, Cléopâtre sort après l'installation du Code, en 1934. Mais il a été tourné avant, et donc c'est à l'époque où c'est encore un peu le foutoir. Et donc, le film, il va y avoir des coupures, des choses comme ça. Mais c'est quand même un film très, très osé. Et Cécile B. DeMille, il le dit, hein, il a voulu faire un film sur le sexe. Toute l'histoire de Cléopâtre, vue par Cécile B. DeMille, c'est une histoire de sexe. Et il y a par exemple deux scènes qui sont, pour l'époque, mais vraiment hallucinantes. Il y a la scène de séduction de Claudette, de Antoine, de Marc-Antoine, par Cléopâtre dans le bateau de Cléopâtre. Où, alors c'est plus que suggestif. Les choses sont de plus en plus évidentes. Et ça se termine par le couple de Antoine, Marc-Antoine et Cléopâtre faisant l'amour. Alors, ils sont... Les esclaves de Cléopâtre mettent des voiles, donc on ne les voit pas. Mais il y a la musique très lancinante qui semble marquer le rythme de l'acte sexuel. Et il y a tous les esclaves qui font bouger les rames du bateau. Et les rames du bateau bougent en fonction de l'acte sexuel. C'est vraiment et c'est très voulu tout ça. Cécile B. DeMille a dit qu'il voulait... visualiser et mettre en scène un orgasme. Et donc, toute cette scène-là, c'est un orgasme. C'est quand même du jamais vu à l'époque. Et l'autre scène similaire qui est très étonnante, on voit Marc-Antoine et Cléopâtre qui sont allongés dans les bras de l'un de l'autre. Et la scène est vue à travers une harpe. Et il y a une harpiste qui joue sur les cordes de la harpe. Et en fait, si on regarde bien, on se rend compte que les doigts de la harpiste sur les cordes, en fait, ils caressent littéralement tout le corps de Claudette Colbert. Donc, on assiste en fait à une scène d'amour, une scène de sexe, telle que Cécile B. DeMille pouvait la montrer à l'époque. Donc c'est un film d'une énorme sensualité. Et là aussi, je trouve que la restauration est magnifique. C'est-à-dire qu'on voit, par exemple, les costumes de Claudette Colbert qui sont à la limite. Il y a un côté très sadomaso, je trouve, dans ce film-là. Et il y a un côté, les costumes sont presque des costumes de bondage, je trouve, qui l'enveloppent, qui l'enserrent. Elle est prisonnière de ces costumes, et en même temps, ces costumes qui mettent en valeur son corps, c'est très, très étonnant. Et Claudette Colbert, c'est effectivement... on pourrait faire toute une émission sur elle.
Ouais, puis c'est vraiment l'incarnation, effectivement, de la sensualité. Et puis, à l'époque, hein, oui. Avant de tourner pour Capra, tout ça... et puis, effectivement, c'est un film très fétichiste, on va dire. Voilà.
Voilà, fétichiste. C'est le mot parfait, effectivement.
Merci. On a plus trop le temps de parler des deux derniers films. Je voulais juste quand même les citer rapidement parce qu'il y a quand même le premier film de Dietrich, Le Cantique des Cantiques, signé aussi d'un grand metteur en scène oublié aujourd'hui, Ruben Mamoulian, ouais. Un grand formaliste que j'adore et qui a un film en plus qui a été fait dans la douleur parce que Dietrich ne voulait pas le faire. C'est son premier film sans Sternberg. On a parlé il n'y a pas longtemps en plus de tous ces films faits avec Sternberg. Il y a un dernier film aussi dans le coffret qui est plus léger, qui est plus trivial, signé par un des... Earl Skeington qui a signé dans sa carrière très peu de chefs-d'œuvre, mais au moins un. C'est un bon réalisateur, hein, mais c'est plutôt un réalisateur, un artisan, ouais. Comme on disait tout à l'heure. L'île du docteur Moreau, qui est un film incroyable.
C'est sublime, L'île du docteur Moreau. Ça encore, L'île du docteur Moreau, c'est un parfait film pré-code.
Bien sûr.
C'est-à-dire que tout ce qu'on voit dans ce film, c'est tellement pervers que plus jamais aucun film ne pourra le faire après 1934. En
fait. Comme King Kong, comme même le premier Tarzan, exactement. Tout ça, il y a des choses incroyables. Et on parlait tout à l'heure d'Aïda Lupino, qui est une réalisatrice que j'adore, actrice et réalisatrice que j'adore. Et là, il y a un film avec Aïda Lupino et Larry Buster Crabbe, alias Flash Gordon pour les cinéphiles, mais ouais. qui est... un film incroyablement trivial qui s'appelle L'école de la beauté. Moi, j'avais pas vu ce film. C'est vraiment un film de, entre guillemets, mais de pervers, quoi. C'est le film de Whistler par excellence, quoi. Voilà.
Mais totalement, c'est hallucinant. C'est effectivement très léger. Personne ne va dire que c'est un chef-d'œuvre, mais c'est un film qu'il faut voir tellement il est révélateur des mentalités d'époque quand on pouvait se permettre de montrer ces choses-là à l'écran. Et en fait, c'est un film qui, du début jusqu'à la fin, ne pense qu'à montrer les corps des jeunes filles, mais les corps des hommes aussi. Ça, c'est très étonnant, parce qu'à l'époque, le corps de l'homme, c'est un peu tabou quand même. Alors, il y a les Tarzans de Johnny Weissmuller, qui font quand même gros, c'est gros scandale quand même, un Tarzan. Mmh. Mais là, c'est encore parce qu'on voit, on voit littéralement tous ces hommes qui sont tous des athlètes, on les voit nus, les fesses à l'air. Mmh. On n'a jamais vu ça à l'écran à l'époque. Et c'est un film qui, à la fois, se fait croire qu'il dénonce la pornographie, mais en fait, qui, quelque part, prend beaucoup plaisir à la montrer, en fait. Alors, c'est très amusant. Il y a une espèce de... Alors, la question que pas mal d'académiciens se sont posés sur ce film, c'est toute cette mise en scène du corps, à travers des numéros musicaux, tout ça, ça rejoint un peu l'obsession du corps qu'on retrouve dans le cinéma nazi. Alors évidemment, ce n'est pas un film qui promeut une idéologie nazie, mais il y a quand même cette idée du corps parfait, du corps qui est sain, du corps athlétique. C'est assez curieux, en fait. Et effectivement, Larry Buster Crabbe, qu'on connaît donc pour Flash Gordon, qui était le roi de ce qu'on appelle à l'époque les serials, c'est-à-dire ces petites séries Z qui passaient avant les grands films, et qui étaient un peu l'équivalent des feuilletons, en fait, à l'époque. C'est un vrai athlète olympique, c'est un nageur, comme Johnny Weissmuller, et d'ailleurs, il a fait un Tarzan, lui aussi, et il est effectivement d'une très grande beauté. Et donc, en fait, tout le film est un peu autour de ça. Et Ida Lupino, qui est très, très jeune, je crois qu'elle a à peine 16 ans ou quelque chose comme ça à l'époque, qui vient d'Angleterre, qui a débarqué il y a peu, et qui est là, toute gamine, et on la reconnaît parfaitement, mais ce n'est pas la Ida Lupino des grands films noirs des années 40 de la Warner qu'on va retrouver après. Mais de la voir si jeune, c'est étonnant. Et il y a un autre film qui n'est pas dans le coffret, mais de l'époque précode que moi j'aime énormément, où elle a un petit rôle, qui est Peter Ibbetson de Henry Hathaway, qui est un film...
c'est un chef-d'œuvre.
Du cinéma romantique. Ah, oui. Et c'est aussi un des tout premiers films où on voit Ida Lupino toute gamine, en fait.
On vous rappelle que le coffret Hollywood interdit les années pré-code, pour lequel Denis Rossano, qui était avec nous durant l'heure qui vient de s'écouler, a écrit un très bon livret, est disponible chez Éléphant de Film.
C'était Culture Prohibée, l'émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et Radio Graphite. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Pour l'animation technique de Damien Demé, dit La Bête Noire de Compiègne, and the last but not the least, je veux bien sûr parler à l'architecture sonore de l'ensemble de Léo the Last alias Léo Manien. Salut les gens, à la prochaine! Anthony.